Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Qui a quand même, je dois le dire parce que ça faisait un moment que c'était pas arrivé, retrouvé son générique original. Donc c'est quand même une bonne chose.
Qui est de Jimi Hendrix, je le rappelle.
Donc il me semble bien qu'on est le 15 janvier. Donc on vous a pas, vous nous avez pas entendu depuis l'année dernière. Donc on va sacrifier à la tradition. Et mais c'est une jolie tradition. Vous souhaitez plein de bonnes choses pour cette année. Que les choses qui se passent dans les romans noirs se passent pas dans votre vie.
Ou le moins possible.
Ou le moins possible. Et puis, voilà, plein de sérénité, de jolis moments ensoleillés.
Et de belles lectures, bien évidemment.
Voilà, évidemment, de belles lectures. Donc, au sommaire de cette émission, première partie, dans quelques instants, nous allons retrouver Dominique Format pour son dernier roman. Et puis, dans une deuxième partie, nous parlerons de l'événement polar de la Côte d'Azur annuel, c'est-à-dire le festival Polar à Drape, qui se passera les 1er et 2 février 2014, évidemment, dans la ville de Drape, au-dessus de Nice. Et Jacques nous parlera d'un de ses livres qu'il a beaucoup aimé. Et en fait, ce sera une spéciale Ombre Noire, puisque nous allons vous parler de deux romans qui sont sortis dans cette collection Ombre Noire, qui n'est pas vieille, mais qui nous permet de lire de très très bons romans. Et tout de suite, Dominique Format, bonsoir.
Bonsoir, Corinne.
Donc, avant de parler de dernier livre paru, donc paru ces jours-ci, qui s'appelle Hollywood Zero et qui est paru chez Rivage Noir, toute mini-bio. Donc, si je dis écrivain, scénariste, réalisateur, journaliste, photographe, j'en oublie ?
Non, je crois que vous avez tout dit. Je crois que vous avez tout dit, oui. Ça couvre toute ma carrière jusqu'à présent, je crois.
Voilà, alors, la partie de la carrière qui nous intéresse le plus, me semble-t-il, pour ce dernier roman, Hollywood Zero, c'est quand vous êtes parti en 1992 à Los Angeles, où vous avez pas mal côtoyé les milieux du cinéma. Vous pourriez nous en parler, allez, en une, deux minutes de cette période de quelques années ?
Oh ben voilà, je suis parti, comme vous l'avez dit, en 92. J'ai vécu 15 ans aux États-Unis, à Los Angeles, donc à la Mecque du cinéma.
C'était pas la Mecque plus ultra, hein, d'après votre roman.
Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, ce qui semble être l'endroit où le cinéma triomphant se fait depuis très longtemps. Donc j'étais très content de vivre là-bas. Et très rapidement, j'ai pu trouver des moyens de travailler dans cette industrie alors que je n'avais aucune formation. Et donc j'ai travaillé d'abord en tant que ce qu'on appelle un music supervisor, quelqu'un qui s'occupe de la musique sur les films. Ensuite, j'ai fait toutes sortes de petits métiers sur des différents tournages. Puis je me suis mis à écrire des scénarios et j'ai réussi à convaincre un producteur de me financer une de mes histoires. Et c'est devenu un film que j'ai tourné en 2001.
Qui s'appelle Scene of the Crimes, excusez-moi l'accent,
voilà.
Avec Jeff Bridges et Noah Wiles. Voilà, film qu'on n'a pas beaucoup vu sur les grands écrans, mais c'est ce qui vous a permis aussi d'avoir de la matière pour le roman dont on va parler, Hollywood Zero. Je précise quand même que c'est votre troisième roman. Le premier, Scud, parlait de la musique. Le deuxième, Voyoucratie, déjà chez Rivage Noir, parlait en gros du milieu de la pègre et de truands, parfois pas très fufute. Et là, on se plonge justement dans le milieu du cinéma à Los Angeles avec un certain Dominique. Bon, je n'en dirai pas plus, qui s'enfuit de France parce que il lui a. Bon, on peut dire. Comment on peut le situer, Dominique ? C'est un petit magouilleur, en fait.
Oui, c'est un voleur craintif. C'est un cambrioleur craintif.
Oui, il a tout le temps peur.
Voilà, il a tout le temps peur. Il redoute la violence physique. Il pense être plus malin que les autres. Et dans son métier, ben, on arrive parfois à avoir à affronter des gens qui sont bien plus forts physiquement que soi-même. Et donc, redoutant la violence physique, il décide de s'enfuir et il part pour Los Angeles.
Voilà. Et donc il fuit des dettes de jeu et il va y retrouver, oui, entre autres. Donc, il y a deux personnages importants qu'il va trouver à Los Angeles. Le premier qu'il connaît déjà, Kenny. Donc, vous dites de lui Son spectre de mensonges allait de la mystification à la galéjade en passant par la fumisterie. Que fait Kenny exactement à Hollywood ?
Mais il est producteur. Je pense que...
Mais c'est un vrai ?
Pas véritablement, mais vous savez, la différence entre un vrai et un faux producteur, c'est simplement le nombre de films à la fin de sa carrière qu'il a réussi à monter. Mais on oublie toujours dans ce cas-là les films qu'il a tenté de monter et qu'il a échoué. Et les projets qui ont échoué. Et donc, c'est une ville qui a une particularité. Ce sont des métiers où il y a cette spécificité, où on peut se déclarer être quelque chose sans ne l'avoir jamais fait. Moi, je rencontrais souvent des gens qui me disaient « Je suis réalisateur, je suis scénariste, je suis producteur. » Et vous leur demandiez, ils n'avaient pas encore écrit un script, ils n'avaient pas encore réalisé un film, ils n'avaient pas encore produit. Mais ils étaient dans le mouvement de produire ou de réaliser. Et donc, vous avez beaucoup de gens comme ce Kenny qui sont à la marge. Ils peuvent très bien un jour devenir de véritables producteurs, mais ils peuvent très bien avoir un autre agenda, qui est son cas.
Oui, c'est ce... agenda est un, on va dire, comment dire, une métaphore. Voilà, donc Kenny est en cheville avec la femme fatale du roman, qui s'appelle Rachel.
Oui.
Et enfin, pour moi, j'ai hésité tout au long de la lecture à la traiter soit d'infâme salope, soit de la plaindre franchement en tant que victime du système hollywoodien.
Écoutez, vous me faites plaisir en disant ça parce que c'est véritablement ce que je voulais faire de ce personnage. Je voulais que le personnage soit à la fois quelqu'un qui semble être dangereux pour les autres, une mente religieuse, et en même temps quelqu'un qui soit totalement autodestructeur et qui soit une victime de son propre du système dans lequel elle vit. Elle a les deux côtés. Elle est ces deux femmes à la fois.
Alors à eux trois, donc Dominique qui vient de France, Kenny et Rachel, ils vont, en tant que vrais faux producteurs, essayer d'attirer dans leur filet quelques naïfs, mais bourrés de fric, pour essayer de soutirer de l'argent pour soi-disant produire des films. Et Dominique va donc jouer le faux réalisateur qui arrive de Paris. Alors vous dites de la réalité d'Hollywood. La réalité hollywoodienne se nourrissait de la prétention des unes et de la bêtise des autres. C'était un jeu de dupes parmi les dupes. J'ai l'impression que vous avez un petit peu vécu ça.
Oui, 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 tout à fait. C'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu, dont j'ai été témoin. Et si vous voulez, quand j'ai décidé d'écrire une histoire qui traiterait des 15 années que j'ai passées à Los Angeles, c'est poser la question de faire quelque chose qui soit très très proche de ma vie, ou bien quelque chose qui utiliserait certains éléments et des moments que j'avais vus, les gens que j'avais pu croiser, en utilisant évidemment une structure qui soit fictionnelle et qui soit de l'ordre du noir. Et des dupes, des gens qui étaient importants, qui avaient fait des études, qui représentaient beaucoup d'argent et qui devenaient d'un seul coup des grands naïfs parce qu'on leur promettait de rencontrer une vedette, j'en voyais régulièrement à pratiquement chaque repas que je faisais dans des restaurants un petit peu à la mode à Los Angeles. Et c'était sidérant de voir des gens comme ça, en costume, des gens sérieux, qui d'un seul coup devenaient des enfants. Et il y a quelque chose à propos d'Hollywood, c'est pour ça que je disais la Mecque, il y a quelque chose à propos d'Hollywood qui fait qu'on rêve.
Mais oui, si c'est le rêve hollywoodien.
Le rêve hollywoodien, il existe.
Et après, derrière ça, il y a quand même l'envers du décor, parce que vous nous baladez beaucoup, ils se baladent beaucoup en voiture, oui. On retrouve des endroits mythiques, Mulholland Drive, enfin, il y a plein de quartiers de Hollywood que vous nous faites visiter, et là, il y en a quand même pas mal qui sont sordides, glauques, voire dangereux. Et vous dites à un moment donné, ça m'a tilté, alors que je connais le nom de l'aéroport, Los Angeles était à l'heure où mystère. Quel genre de ville nomme son aéroport international X ? Effectivement, oui, LAX, c'est l'aéroport de Los Angeles. Dans toute cette description, là, vous y mettez beaucoup de ce que vous avez trouvé à Hollywood. Donc, c'est vraiment l'envers du décor, cinématographique ou pas, d'ailleurs.
Oui, oui. C'est un challenge aussi d'écrire un livre qui traite de Los Angeles, parce qu'il y a eu, évidemment, des dizaines, des centaines de livres avant le mien qui parle de cette ville, et comment faire pour raconter la ville sans être dans la carte postale ou dans le stéréotype. Et il a fallu que je puise et que je cherche, évidemment, dans tous les quartiers que j'avais pu fréquenter. Durant 15 ans de vie à Los Angeles, j'ai beaucoup bourlingué dans cette ville, qui est une ville immense, et je me suis dit qu'il fallait montrer à la fois ce que les gens pouvaient voir quand ils étaient quand il venait visiter la ville pour la première fois, ce fameux aéroport, ces autoroutes qui traversent la ville, mais aussi tous ces endroits où on ne va jamais quand on est touriste, qui sont les endroits où des gens défavorisés vivent et où aussi parfois c'est très dangereux.
Alors on se balade aussi dans les beaux quartiers où il y a les driveways pour garer les voitures des gens riches et les maisons très cachées. Rachel habite déjà dans un endroit plutôt pas mal quand même.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Et oui, donc, si on se rapproche un peu du personnage de Dominique, lui, on va le suivre un peu dans une espèce de descente aux enfers parce qu'en fait, rien ne marche comme on voudrait que ça marche. Évidemment, les arnaques dans les romans noirs, dans les bons romans noirs, en tout cas, c'est pas fait pour qu'il n'y ait pas d'embûche. Et puis, donc, ceux qu'il cherchait à Paris le retrouvent. Et là, j'ai l'impression que, en deuxième projet, vous amusez un petit peu avec les codes des aînés du polar, c'est-à-dire, vous avez peut-être aussi pensé un petit peu à Philippe Marlowe en baladant Dominique à travers Hollywood et ces tough guys qui ont fait le succès et les beaux jours du roman noir américain.
Bah, vous me flattez en le citant, mais c'est vrai que j'y ai un petit peu pensé. Mais ce que je voulais faire aussi avec le personnage de Dominique, c'est que quand je le présente à Paris, il est craintif, mais il se pense très malin. Il pense être un cambrioleur très, très astucieux et très prudent. Et donc, il a un petit peu une forme de suffisance, de supériorité morale par rapport aux autres. Or, une fois qu'il est à Los Angeles et qu'il accepte de devenir un prétendu réalisateur, il trouve en face de lui des gens qui sont soit plus malins, soit plus dangereux, et il devient plutôt une proie qu'autre chose. Il ne contrôle plus rien du tout. Il est quelqu'un qui essaie de réagir aux événements plutôt que de déterminer les événements.
Alors, celle qui, voilà, navigue entre être maître de ce qui se passe et pas du tout, c'est donc Rachel. Et Rachel, je la vois aussi, elle arrive quand même à pas mal se débrouiller. Et en fait, c'est un peu le summum de l'évolution darwinienne. Parce qu'on a l'impression que dans ce milieu-là, gagner et survivre, c'est s'adapter, d'une manière ou d'une autre.
Oui, oui, mais c'est vrai. C'est vrai qu'elle est, une définition purement darwinienne du succès et donc de l'adaptation, avec tout ce que ça peut impliquer. On ne sait pas exactement d'où elle vient. On a quelques notions de son travail à New York. On imagine que c'est une femme qui a affronté beaucoup de problèmes et on comprend
elle a vécu.
Elle a beaucoup vécu, elle a vécu, elle a souffert, énormément souffert. Elle n'utilise pas ses souffrances pour avancer, mais on comprend qu'elle a une connaissance de la vie bien plus importante que celle de Dominique, alors que lui est un cambrioleur et qu'elle est une véritable productrice. Mais elle a beaucoup plus morflé, elle a souffert.
C'est peut-être ça qui va lui donner une force que n'a pas Dominique, justement, tout au long du récit. Dans le livre, il y a aussi, et c'est là-dessus qu'on va terminer, il y a beaucoup de musique. Alors, c'est la musique que vous écoutiez là-bas? C'est la musique que vous écoutez tout le temps?
C'est la musique que j'écoutais là-bas et que je continue à écouter, oui, oui. C'est la musique que j'aime.
Ben Dominique, on va vous remercier.
J'aurais juste une petite question subsidiaire. Est-ce que vous avez fait un casting pour les personnages de ce roman? Un casting avec des acteurs qui existent maintenant,
qui pourraient le jouer si ça devenait un film, c'est ça?
Par exemple, oui.
Non, pas véritablement. Pour tout vous dire, j'ai utilisé des gens que j'ai rencontrés. Parfois, évidemment, j'ai mélangé plusieurs personnes, mais Rachel est quelqu'un que j'ai bien connu. Kenny est le mélange de deux, trois personnes que j'ai aussi fréquentées. J'ai souvent pensé pour mes autres livres à la façon dont le livre pourrait être adapté au cinéma. Cette fois-ci, j'espère qu'un producteur sera intéressé et à ce moment-là, j'en parlerai avec lui. Mais je ne veux pas me faire trop d'illusions à l'avance.
Enfin, moi, Rachel, je vois bien Uma Thurman. Hein.
Ah, ben j'achète, je prends.
Ouais.
Oui, oui.
Je vois bien, enfin bon. Mais bon, je n'y connais rien dans le cinéma, à part apprécier les bons films, qu'ils soient noirs ou pas. Donc, Dominique, on va écouter, pour finir, un morceau qui fait partie de la bande-son, qui est un morceau des Flying Lizards.
Voilà, qui s'appelle Monet, et qui n'est pas bien entendu le Monet des Flamants Roses, mais un titre qui date de 1959, si je m'abuse, de Barrett Strong, et qui a été repris par de nombreux groupes, entre autres, moi c'est comme ça que je l'ai connu, par les Beatles.
Oui. oui, la fameuse version des Beatles. Ben, merci beaucoup.
Voilà, ben, merci beaucoup à vous Dominique, et puis à très vite.
Et donc les Flying Lizard, Monet.
Je précise avant que Dominique Formant pourra le rencontrer à Drape les 1er et 2 février, donc vous pourrez l'avoir en direct live. Merci Dominique, au revoir.
Merci encore, au revoir.
In life for free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. Get everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money.
Agora Côte d'Azur. Les informations régionales, Vicky Bérardi.